Méridienne.
Et pour la rubrique du jour, c'est avec Jean-François que ça se passe. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien en forme ?
Bien et toi ?
Ça va, ça roule. De quoi ou de qui est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
De quelqu'un, effectivement. Alors, j'imagine que tu connais quand même assez bien Napoléon Ier, hein, ce grand général victorieux et qui a conquis l'Europe, qui a mis en place le Premier Empire juste après la Révolution. Tu dois aussi connaître Napoléon III, peut-être un peu moins, mais un peu quand même.
Un petit peu moins, mais j'en ai entendu parler.
Il a instauré le Second Empire entre 1852 et 1870. Mmh. Il a rénové Paris avec le baron Haussmann. Mmh. Mais peut-être que tu ne connais beaucoup moins Napoléon II.
Ouais, non, ouais, celui-là, non, effectivement. Je n'ai pas vu le film.
Et ben, c'est de lui dont on va parler, hein, qui est né le 20 mars 1811, qui a disparu quand même dans notre histoire. Il est pourtant donc le fils de l'empereur Napoléon Bonaparte, et c'est une partie de son histoire que je vais tenter de vous raconter un petit peu aujourd'hui.
Okay.
Alors, moins d'un an après leur mariage, Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche s'apprêtent à accueillir leur premier et unique enfant. L'ambiance est alors tendue aux Tuileries ce 20 mars 1811. D'autant que le bébé se présente par les pieds et non la tête. La consternation est totale au point que le docteur Dubois demande à Napoléon Ier « Qui faut-il sauver en cas de danger, la mère ou l'enfant ?» L'empereur lui répond quand même de sauver la mère. Finalement, après moult efforts, l'enfant vient au monde à 9h15 du matin. À l'écoute des 22 coups de canon, et non 21 pour une fille, les Parisiens s'exaltent. L'empereur tient son héritier. Ravi, il fera même tirer 101 coups de canon, carrément.
D'accord.
C'est que la naissance de son fils nourrit d'abord les plus grandes espérances dans la société et l'imaginaire collectif. Car bien que l'Empire soit à son apogée à ce moment-là, le peuple nourrit une réelle attente pour que la paix arrive enfin. Cet enfant porte avec lui tout un espoir populaire, mais éphémère, puisque les relations se détériorent aussitôt avec la Russie. L'empereur s'apprête à repartir en guerre et la crise économique n'arrange en rien les choses. Ce fils n'aura absolument rien changé dans l'esprit de l'empereur. Alors les prénoms donnés au nouveau-né sont néanmoins lourds de sens. Napoléon, bien sûr. François, comme son grand-père maternel qui est l'empereur d'Autriche. Charles, son grand-père paternel. Et Joseph, prénom de son parrain, roi des Espagnes et des Indes. Et dès sa naissance, l'enfant est titré. Il est roi de Rome, façon aussi de rappeler ici le pape qui est plutôt récalcitrant à l'autorité de Napoléon Ier à ce moment-là, et de montrer que Rome n'est qu'un chef-lieu des 130 départements de l'Empire à ce moment-là.
Ouais.
Mais pour Napoléon, il n'aura jamais été vraiment question de l'intérêt de son fils, mais du de son propre intérêt. L'avenue de cet enfant lui permet, pense-t-il, de pérenniser son pouvoir en fondant la dynastie impériale dont il a toujours rêvé. De plus, celui qui est censé devenir le prochain empereur est d'autant plus légitime qu'il est le petit-fils de l'empereur d'Autriche. Ce remariage avec l'Autriche répond avant tout à une volonté politique et matriarcale. Il fallait à Bonaparte un héritier mâle pour assurer sa lignée, ce que Joséphine de Beauharnais, sa première épouse, n'a pas réussi à lui donner. Pour cela, rien de mieux qu'un enfant partagé avec une impératrice et une princesse autrichienne, nièce de Marie-Antoinette. Pour Napoléon, il aura d'abord été question de montrer une autre image de lui-même en tant qu'empereur et père. Il insiste beaucoup sur cette image du bon père de famille, à tel point que bon nombre de représentations sont passées à la postérité. Des artistes ont souvent été invités à le représenter dans des actions de la vie quotidienne, jouant avec son fils, avec des soldats de plomb par exemple, dans le bureau de son père. Cependant, la construction de ces images d'Épinal ne peut durer, car la politique rattrape le père et le fils. Ainsi, le petit Napoléon est reconnu empereur sous le nom de Napoléon II par les chambres des 100 jours après la seconde abdication de Napoléon Ier le 22 juin 1815. Mais il n'aura pas l'opportunité de régner, sa mère s'étant enfuie avec lui à Vienne pour se réfugier auprès de son père, l'empereur d'Autriche. Napoléon II n'a alors que 4 ans, on l'appelle désormais Franz à la cour autrichienne et il assiste à l'effondrement du régime impérial imposé par son père. La vie du roi de Rome va alors être poursuivie par le spectre, l'ombre, la destinée triomphale de son père. Mais il a aussi été hanté par la légende noire de son paternel, relayée et partagée par les monarchies opposées à l'Empire, hein, au premier rang desquelles l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche. C'est la raison pour laquelle il est immédiatement rendu illégitime par l'Autriche après la chute de l'Empire et la restauration de la monarchie française. Il est néanmoins fait duc de Reichstadt, tout de même. S'il n'a pas eu le temps de rayonner, c'est aussi pour des raisons liées au contexte, celui d'une France impériale consommée plus vite que ne l'avait prévu l'empereur. Napoléon II va vivre une vie assez triste, isolée, solitaire et tragique, qui rompt totalement avec l'avènement impérial qu'a incarné son père avant lui. Son éducation est confiée donc à la cour d'Autriche, pour qui il restera quand même le fils de Napoléon. Il se voit hérité de tous les traits méprisants qu'on nourrit envers son père, les monarques des puissances monarchiques coalisées contre la France impériale dans leur temps. Napoléon, pour eux, incarnait le diable, l'ogre qui a secoué toute l'Europe. Le chancelier autrichien Metternich veille rapidement à reconstruire une Europe monarchique sans Napoléon et entend même gommer l'épisode napoléon. Cependant, après la révolution parisienne des Trois Glorieuses en 1830, le jeune duc de Reichstadt entre en relation avec le duc de Marmont, qui est un ancien grognard, un ancien compagnon de Napoléon Ier, qui l'entretient donc dans le souvenir glorieux de son père. Mais 1830, c'est déjà trop tard. Le malheureux prince est frappé par la tuberculose et va vite s'effondrer.
1830
Ouais, assez rapidement. Enfin, 1832, il va mourir. Son destin est donc brisé. Il meurt très jeune, hein, 21 ans, seulement en 1832. Et il est enterré à Vienne, assez rapidement. Peu après sa mort, Victor Hugo va lui dédier un poème, ce qui s'intitule Napoléon II, qui entretiendra un temps son image de héros romantique. Et c'est le premier à lui attribuer le surnom, d'Aiglon, en référence à son père qui était l'aigle. Ouais. Plus tard, en 1900, Edmond Rostand s'inspire de sa vie pour écrire le drame L'Aiglon, encore une fois. Puis, plus grand chose quand même à signaler, il va disparaître au fur et à mesure progressivement de la mémoire française, jusqu'au transfert de ses cendres aux Invalides, auprès de son père, qui est enterré aux Invalides, le 15 décembre 1940, à l'initiative de Hitler qui pense faire plaisir aux Français en rapatriant l'aiglon. Mais comme une ironie de l'histoire, c'est finalement le tombeau de son père qui occupe aujourd'hui toujours autant l'attention lorsqu'on va aux Invalides. On ne prête pas attention à Napoléon II qui est à côté, mais on prête attention à Napoléon Ier, dont la mémoire demeure alors que son fils, sa mémoire était depuis longtemps disparue.
Ouais, il sera toujours dans l'ombre de son père.
Ouais.
Et Napoléon III, c'était le fils du 2
ou... C'était le neveu.
C'était le neveu, ouais, ok. Oui, ouais, parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir d'enfant, il a été...
Enfin, le fils du premier, Napoléon III.
Napoléon III, c'est...
Parce que Napoléon II, il n'a pas eu le temps d'avoir d'enfant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, destin tragique.
Exactement.
Et héros romantique, effectivement, oui, ça a inspiré pas mal d'auteurs. Merci beaucoup pour cette histoire.
Et pas de rien.
À tout bientôt.
À bientôt. Galade. La Méridienne.